On commence cette édition avec les interviews de l'IA et les acteurs de l'intelligence artificielle. Voilà ceux qui font, ceux qui parlent de ce qu'ils connaissent. Cette semaine, autour de la table, Bruno Trébuc, directeur en charge des sujets d'innovation pour le secteur industriel chez CGI. On va parler ensemble de jumeaux numériques et d'IA.
Bonjour, tout à fait, oui.
Julien Pélabert, docteur en négociation. Vous êtes fondateur de l'Institut de négociation et de recherche appliquée, NERA, et aussi le fondateur de NegoBrain. Avec vous, on va parler d'une IA qui est dédiée à la négociation.
Tout à fait.
Ça m'intrigue. Mais on commence avec vous, Anna Samolyotova. Vous êtes la directrice de la practice conseil d'Illwin Technologies, Next Consulting, pour citer précisément. Donc, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique, mais en particulier avec l'intégration de l'IA. Vous faites ça sur tout le cycle ?
Tout à fait.
D'accord. De la recherche des cas d'usage jusqu'à la phase opérationnelle.
Tout à fait. On est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, quand on commence à intégrer l'IA en entreprise. Et le premier point, c'est plutôt l'acculturation. Donc déjà, amener la compréhension aux entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec de l'IA? Puisqu'il y a plein de choses. Ce n'est pas juste on branche le tuyau de ChatGPT et ça marche. Et ensuite, une fois qu'on a compris, c'est par quoi commencer, quel budget accorder, parce que ça coûte assez cher, c'est pas gratuit, avec qui construire des équipes pour déployer, et ensuite, il y a évidemment toute la partie de changement, change management, donc changement...
Pas à négliger.
Ouais. Tout à fait.
Alors, vous avez écrit un ouvrage, Gouvernance de l'IA en entreprise, en fait, c'est un guide pour les dirigeants, une phrase sur ce qu'on doit retenir.
Qu'il faut s'en occuper. aujourd'hui, l'IA, on peut le comparer un peu avec de l'eau qui ruisselle un peu partout. Ouais. Donc, en fait, ça vient de partout. Ça peut tomber sur les terrains très fertiles et donc super, et ça peut créer des moisissures. Donc, dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. L'IA arrive par plein de moyens. Vous avez quatre gros robinets. Donc, le premier, c'est l'environnement bureautique. Microsoft, Google, pour la majorité des entreprises Microsoft avec Copilot. Donc, oui. On peut faire plein de choses. C'est très puissant, c'est très mal exploité. Deuxième robinet, vous avez les outils métiers. Salesforce, CRM ou des outils de téléphonie, etc. Tous les éditeurs de logiciels aujourd'hui poussent des solutions IA.
C'est vrai.
Donc, ça peut être super, ça peut coûter aussi quand même assez cher. Troisième gros robinet, c'est quand on n'a pas trouvé des solutions dans les deux premiers, on autorise l'implémentation des outils externes. Et le quatrième, celui qu'on ne peut absolument pas fermer, c'est ce qu'on appelle le shadow IA.
Ah
c'est
oui.
Que vous avez dans toutes les entreprises, il n'y a pas une entreprise sur cette terre qui peut dire on n'a pas d'IA chez nous.
Oui.
Parce qu'il y a forcément un, deux, beaucoup de collaborateurs qui font des choses. C'est un peu comme si vous aviez dans votre poche où vous rouliez un Ferrari chez vous, vous arrivez au boulot et on vous propose une vieille Renault. Donc pourquoi ? On ne comprend pas et donc on va aller chercher des outils IA qui sont très puissants, sans déclaration de quoi que ce soit, évidemment. En mettant en risque l'entreprise.
Eh ben oui, super. C'était pas en une phrase, mais c'était très très bien sur ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question, c'est sur la question du passage à l'échelle. On nous dit voilà, faut arrêter, sortir de du POC, de la multiplication des prototypes et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus loin? En entreprise, pourquoi ça bloque aujourd'hui vraiment?
Ouais, je pense qu'il faut revenir à il y a 3 ans où on voyait l'IA encore comme des expérimentations. Donc il ne faut pas oublier que c'est l'innovation extrêmement forte.
Oui.
Et donc on a très peu de REX.
Ouais.
Donc, on ne peut pas dire on fait comme les voisins dans le métier ou dans le secteur, on fait pareil, on a déjà les retours. Donc, on expérimente et comme c'était traité surtout par des gens de DSI Innovation, en fait, on testait des choses en se disant, en fait, notre objectif, c'est tester. Notre objectif, ce n'est pas déployer directement à destination de 1 000, 10 000 collaborateurs. Or, quand on commence à penser déploiement, on a premièrement transformation de métier.
Oui.
Comment ça va être utilisé, puisqu'on a fait l'investissement, mais si personne ne l'utilise, c'est un flop. Et surtout, combien ça va coûter.
Oui, mais ça, Anna, j'ai envie de dire, c'est dans tous les sujets de transformation numérique. Ah oui, à un moment, quand on veut sortir du POC, oui, il faut s'intéresser aux choses sérieuses. Une réaction là-dessus, sur les entreprises qui ont du mal avec ce passage à l'échelle sur l'IA ?
Alors, quelques éléments de vue qui est là-dessus, c'est qu'effectivement, une erreur à ne pas faire, c'est de la tech pour de la tech.
Oui.
Surtout pas. Et en fait, ce que je constate dans différentes entreprises, mais avec le vécu de chaque entreprise, sa maturité, etc., c'est très souvent peut-être des difficultés à vraiment définir l'objectif que l'on veut se donner. Et pour arriver à cet objectif, qu'est-ce que je vais prendre comme petit cas d'emploi pour être sûr d'y arriver incrémentalement, pas à pas, avec tous les bons critères qui vont être tous réunis, une qualité de données, des gens formés, une connaissance des technologies strictement nécessaires, mais pas trop, etc. Ouais. Donc c'est compliqué tout ça, avec la culture de l'entreprise, avec le vécu.
Et c'est vrai que peut-être avec l'IA, comme ce sont des chatbots qui miment la manière dont on parle, et on a l'impression que tout va être beaucoup plus simple et naturel, et en fait, non, ça reste des grandes transformations. Alors, Bruno, on reste ensemble. Bruno Trébuc, donc directeur en charge des sujets d'innovation pour le secteur industriel chez CGI, qui est une entreprise de services conseil.
Oui.
Donc vous appliquez, vous accompagnez les entreprises, enfin vos clients sur toutes ces pratiques, ces intégrations technologiques. Je voulais qu'on adresse ensemble le sujet du jumeau numérique. On en parle beaucoup dans l'industrie. Mm-hmm. Comment est-ce que ça trouve son intérêt aujourd'hui, de manière plus générale, sur d'autres entreprises, dans tous les secteurs ? Et qu'est-ce que l'IA vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça permet d'accélérer justement sur les jumeaux numériques?
Alors je pense qu'il y a déjà un élément important. Quand on parle de jumeaux numériques, c'est déjà se mettre d'accord sur quelques définitions de base. C'est toujours important. On a le vocabulaire maquette numérique et on a le vocabulaire jumeau numérique.
Oui, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien faire la séparation déjà entre les deux.
C'est
un petit peu ça. En fait, pour simplifier, on va dire que la maquette numérique, elle existe quand je suis en train de définir un produit ou un système.
Oui.
Avec ses processus de fabrication, tels que j'imagine, processus de maintenance. Donc, pour une voiture, si je prends cet exemple, on voit bien les modèles 3D qui tournent, les modèles de simulation, la voiture qui roule sur un terrain fictif, toujours en modèle 3D pour prédire ce qui va se passer. Et à partir de là, on va fabriquer des exemplaires physiques. Donc, j'ai une maquette numérique et je vais produire, par exemple, 10 voitures, 10 vraies voitures. Le jumeau numérique, il va apparaître à ce moment-là. Je vais avoir un jumeau numérique pour chaque voiture. 10 voitures, 10 jumeaux numériques. Et au même titre,
quel
en fait...
Quel est l'intérêt, alors?
Alors, l'intérêt, c'est que la maquette numérique, elle porte la définition du produit du système.
Oui.
Le jumeau numérique, lui, ça va être le gros vecteur pourvoyeur de services sur chacun des individus qui vont être vendus. Donc, on peut se poser la question, est-ce que je vends mon jumeau numérique? Est-ce que c'est l'industriel qui va le vendre? Est-ce que c'est l'exploitant qui va se l'approprier? Et le principe du jumeau numérique, c'est
toujours... C'est une nouvelle forme d'exploitation, finalement,
ouais,
de ces
exactement,
produits.
Exactement. Ça ajoute des couches de services au-dessus pour que chaque individu, qui va être utilisé différemment, dans des contextes différents, avec donc des expériences différentes, des événements vécus différents, le propos du jumeau numérique...
Donnez-nous un exemple concret.
Alors, c'est justement de comprendre le comportement. Ma voiture numéro 5... Elle se comporte différemment de la voiture numéro 10, oui, parce que l'usage n'était pas exactement le même. J'ai fait plus d'autoroutes, plus de la montagne, la sévérité d'emploi n'était pas la même. Donc déjà, arriver à comprendre le comportement d'un individu physique complètement différent de la vision de maquette numérique, qui est complètement générique.
Un individu, un objet.
Un objet,
la voiture.
On peut dire une instance.
Pour l'instant, ça reste...
Ouais.
Un
alors, en industrie, on dit individu, mais on veut dire une instance physique, un objet physique.
Oui. Ouais.
Pas de problème. Pas de problème. Donc, une fois que j'ai compris, je vais essayer de prédire ce qui va se passer. Si je continue comme ça, est-ce que je vais avoir des problèmes? Et si je vais avoir des problèmes, comment je peux optimiser le comportement de ma voiture physique? Et in fine, est-ce que mon jumeau numérique, il va pouvoir peut-être piloter un peu ma voiture, reconfigurer des équipements, reconfigurer des systèmes, voire peut-être faire plus que ça.
En fait, c'est une maquette, mais qui est opérationnelle. Quand
exactement.
Je disais vivante, finalement, c'est qu'elle permet de transformer l'outil.
Exactement. Elle est opérationnelle parce que le jumeau numérique pour chaque voiture physique va se nourrir des données opérationnelles, va récupérer donc une température de moteur, une tension maximale dans la distribution électrique. Bon. Donc des capteurs, des informations que je remonte. J'alimente mon jumeau numérique qui lui-même récupère des informations de maquette numérique pour savoir quelle est l'architecture de ma voiture. Je récupère aussi des informations de la supply chain qui me dit « elle a été fabriquée comme ça, avec ces composants-là ». Donc je suis vraiment complètement individualisé à la voiture.
Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient transformer dans le jumeau numérique ?
Alors, si on se projette un petit peu dans le futur, je prends toujours une image, le jumeau numérique du futur, c'est l'interface IA entre le vaisseau spatial et l'équipage. Et c'est
d'accord.
Exactement ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux faire du jumeau numérique sans faire d'IA.
C'est une voiture, on est passé au vaisseau spatial.
Alors, oui. On redescend au niveau de la voiture, qui a toujours des roues pour l'instant. En fait, quand j'étais au niveau de mon jumeau numérique, je peux tout à fait ne pas utiliser d'IA. Mmh. Mais je vais avoir un jumeau numérique qui va être très déterministe, en fait. Ce qu'on veut faire avec l'IA, c'est avoir un jumeau numérique qui soit auto-évolutif et cognitif, qui s'adapte aux conditions d'usage au fil du temps, ce qu'on n'est pas capable de faire si on n'injecte pas de technologie d'IA. Donc je ne rentre pas dans les détails
d'accord.
dans notre discussion, mais l'intérêt c'est qu'effectivement, si j'ai des modèles prédictifs de fiabilité ou de vieillissement, ils ont été donnés à un moment donné par la R&D, par l'engineering, ils sont descendus de la maquette numérique, mais la voiture... En 5 ou 10 ans, j'ai fait plein de choses avec. Mmh. Elle a vieilli, elle a évolué. Les conditions ont évolué, mes usages ont évolué. Donc, je vais chercher à avoir un jumeau numérique qui s'adapte au fil du temps, qui soit plus cognitif par rapport au mode d'emploi
et
qu'on a eu et aux sévérités.
Aussi.
Et les modèles prédictifs vont non plus être câblés en dur et hérités des bonnes vieilles équations d'ingénierie, mais se reconstruire avec les données dont on dispose, acquises sur la voiture et environnementales, et avec les sévérités d'emploi, les contraintes, etc. Donc, un jumeau numérique
là,
qui va vivre.
Par exemple, de la voiture, que vous disiez, aujourd'hui, les jumeaux numériques, c'est vraiment pour l'industrie. On reste dans l'industrie automobile, là, avec votre exemple.
Un exemple.
Oui. Est-ce que ça touche davantage que l'industrie ?
Alors, ça touche tous les systèmes. Je peux avoir des systèmes cibles. Ça peut être un lave-vaisselle, une voiture, un sous-marin. Ça peut être une infrastructure portuaire. Ça peut être une infrastructure ferroviaire, une infrastructure de distribution électrique. Ça peut être une usine.
Ce sont quand même des grands systèmes complexes.
Ah oui, c'est des grands systèmes complexes. Ouais. Ça peut être une usine, mais un humain, c'est aussi un système.
Oui, en santé, par exemple.
En santé.
Le jumeau numérique.
Donc, on s'intéresserait beaucoup au jumeau numérique de santé.
Oui. Voilà. Des questions sur le jumeau ?
Oui, j'ai une question. Est-ce que dans Tesla et toutes les voitures autonomes qu'on voit apparaître, est-ce qu'on peut dire que ce jumeau numérique est déjà embarqué dans le système ?
Alors,
et s'est fusionné finalement ?
Ils ont des éléments de jumeau numérique.
Hein.
Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que le jumeau numérique, tel que j'ai dit, c'est très très large. Donc en fait, en bonne pratique, un jumeau numérique, il faut le construire incrémentalement dans le temps, petit à petit, en étant basé sur des cas d'emploi métier,
oui.
et pas faire de la tech pour de la tech, parce que là, on va droit dans le mur.
Mm-mm.
Donc, il se construit incrémentalement, et en fait, beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, construisent des morceaux de jumeaux numériques,
d'accord.
en regardant plus l'aspect capteur, plus l'aspect modèle prédictif, plus l'aspect état de santé. Avoir une vision holistique, c'est très compliqué, aujourd'hui. Donc, en fait, Tesla, évidemment, ils ont des petits morceaux de jumeaux numériques qui leur permettent de vendre le service qu'ils vendent. Avec leur voiture.
Et ils le vendent bien, ils sont forts en négociation chez Tesla.
Plutôt.
Transition toute trouvée pour Julien. Julien Palabert, donc docteur en négociation. Hein. Vous êtes fondateur de l'Institut de négociation. On parle bien de la négociation. Négociation, sans parler de technologie. Hein.
Non, non.
Donc, vous êtes donc fondateur de l'Institut de négociation et de recherche appliquée, de NegoBrain. Donc, vous me dites que c'est la première IA qui est vraiment dédiée à la négociation. C'est-à-dire qu'elle est capable de tenir des négociations.
Déjà, c'est intéressant, il faut redéfinir ce qu'est la négociation.
Négocier, oui.
c'est un processus pour trouver un accord avec quelqu'un qui peut vous dire non.
Oui.
À partir du moment où vous demandez à quelqu'un de prendre une décision, vous êtes en négociation. Et en fait, une étude récente en 2023 montre que sur 8 cultures différentes, 5 continents, toutes les 2 minutes et 17 secondes, en interaction sociale, on demande à quelqu'un de prendre une décision. À la fin de la journée, pour quelqu'un comme nous, c'est 50 à 100 négociations sur lesquelles on n'a même pas conscience qu'on est en négociation. Imaginez l'impact, fin de journée, d'avoir sans accord versus sans refus.
Mmh.
Et maintenant, sur une semaine, sur un mois, sur un an. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui...
Vous avez tout ce que vous voulez. Parce que j'ai vu, vous étiez dans le top 5 mondial des meilleurs négociateurs professionnels.
Oui.
Source Global Guru 2026. Je ne savais
tout
même pas
fait.
Que ça existait.
Ça fait
mais j'ai regardé, effectivement.
Ça fait 6 ans que ça existe, effectivement, ouais. avec un classement mondial, seul français dans le top 10 aujourd'hui.
Mais... Et notamment, vous avez négocié pour venir dans Smartech, dans les interviews de l'IA, et vous êtes là.
Et a priori.
Alors, est-ce que vous allez vous faire remplacer par une IA demain ?
Je pense, à terme, oui, sur une notion de mass market. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, sur 100 négociations par personne, on n'a pas tout le temps de les préparer. Et en fait, NegoBrain part de ce constat qu'il y a une vraie volonté des acteurs à mieux préparer leurs négociations, leurs interactions sociales. Parce qu'aujourd'hui, la négociation, c'est le plus gros vecteur de réussite, au-delà du diplôme et au-delà de l'expertise métier. C'est 85% de notre succès professionnel, c'est la capacité à écouter, communiquer, négocier. Génial. Carnegie Institute of Technology.
Ça veut dire que ça donne sa chance à tout le monde quand même.
Mais clairement, en fait, notre capacité à comprendre, à faire l'idée, un projet, à coopérer, c'est ça qui apporte de la valeur aujourd'hui dans les organisations.
Il faut avoir les outils pour savoir négocier.
Il faut avoir les outils et NegoBrain y répond puisqu'il permet de profiler les interlocuteurs, c'est-à-dire de mieux comprendre les sources de motivation, les points de vulnérabilité, le système dont on se refait une représentation de nos croyances et en même temps de se faire coacher sur les négociations, de gagner du temps, d'être plus créatif, de gagner confiance en soi. Donc c'est un vrai outils qui apportent au quotidien. On n'a pas besoin d'être sales pour négocier. Notre quotidien est fait d'interactions avec des gens qui peuvent nous dire non.
Mais vous savez, Julien, les chatbots sont déjà quand même utilisés comme
effectivement.
Ça. Comment je peux convaincre mes parents de sortir samedi soir? Ça, c'est chez les plus jeunes, mais même nous, dans notre travail, tous, on fait ce shadow IA de demander un petit peu d'aide. Comment est-ce que vous, avec NegoBrain, vous professionnalisez ce conseil?
Comment on se différencie? C'est très simple, c'est qu'en fait, on va prendre une IA type ChatGPT, elle vient chercher sur Internet la manière dont elle va vous aider. Sur Internet, en termes de négociation, on va trouver tout et son contraire, et plutôt son contraire. Donc, on va avoir beaucoup d'hallucinations. Notre solution, NegoBrain.ai, elle vient chercher sur une base de données, c'est 550 pages. Sur les 550 pages, les 550, c'est moi qui les ai écrits, 300 sont publiés, notamment chez Juno, mais 250 sont non publiés sur la motivation intrinsèque, sur la manière dont on fait les représentations des croyances et tout ça. Et en fait, ça vient chercher sur cette base de données et il n'y a aucune hallucination. En fait, ça permet de s'adapter à la situation. Donc, c'est une information sur laquelle on peut réellement avoir confiance sans hallucination.
Donc, vous avez mis votre science de la négociation,
travail de recherche.
Dans un modèle d'IA,
notamment avec le doctorat et avec toute la recherche qu'on a fait et qui est dans ce chatbot, qui interroge en fait une base de données en circuit fermé, ce qui change la donne.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Essayez de le coincer pour voir s'il arrive à nous convaincre.
Concrètement, comment ça marche? Donc, mes 50 négociations de la journée, j'ai une petite puce quelque part qui me chuchote ce qu'il faut dire, à quel moment.
Exactement. En fait, NegoBrain, c'est une application que vous pouvez utiliser vraiment à disposition, c'est-à-dire soit pour préparer cette négociation, soit aujourd'hui, on a un mode qui écoute, qui retranscrit et qui nous donne des indications en live avec des pop-up sur la reformulation, sur la neutralisation des objections, sur l'écoute, sur l'utilisation des silences, soit avec une application aussi de type gaming qui vous permet de continuer à jouer et de continuer à apprendre. Donc on essaie de couvrir tous les aspects pour monter en compétences, pour se faire accompagner, pour profiler et donc pour être la meilleure version de soi-même au moment où on va négocier.
Oui. Ah, ça, réaction.
Oui, peut-être ça ressemble énormément à des outils qu'on met à disposition des conseillers, notamment dans le monde bancaire ou assurance ou vente en magasin. C'est le conseiller, le fameux conseiller augmenté.
Tout à fait.
Où je suppose que c'est la même technologie. Et
on va être sur des technologies propres. En fait, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est la base de données, c'est le savoir que vous mettez. Et en fait, cette
là,
notion de double digital.
C'est plus personnel, peut-être.
Ah, c'est un double digital de moi.
Donc, on parlait d'outils professionnels. Vous, c'est pour vous visez votre cible, c'est tout à chacun, quoi.
Exactement. En fait, nous, aujourd'hui, on accompagne des entreprises du CAC 40.
C'est,
on accompagne.
Cher ou pas?
Ben, ça coûte très peu cher par rapport à la valeur que ça apporte en contrepartie. Donc, en fait, l'investissement, imaginez sur 100 négociations par jour, le coût que ça a pour vous d'avoir 100 refus.
Quand vous êtes vendeur ou conseiller, en fait, ces outils professionnels couvrent également la facette personnelle. Tout ce qu'on appelle les soft skills.
Oui,
Anna, vous avez raison.
Comment je vends, comment je négocie, il y a toute une partie. Et aujourd'hui, petit à petit, on a évoqué les transformations de métier, mais donc il y a une grosse transformation d'acquisition de compétences et de connaissances. Et donc, ces outils sont excellents pour vous apprendre à faire des choses différemment et à faire mieux.
On n'est pas juste sur de la boîte à outils, on est vraiment sur de la mécanique de décision. Quand on comprend cette mécanique de décision, on se rend compte que négocier avec un client, un fournisseur, un collègue, conjoint, conjointe, enfant ou forcené, ça passe par la même manière de négocier. Et on peut mettre enfant et forcené au même niveau de négo. Mais la manière dont vous prenez votre décision, c'est la même. La seule chose qui va différer, c'est la substance, c'est l'enjeu. Et en fait, ces outils, vous avez entièrement raison, ils nous aident dans tout le quotidien personnel et professionnel.
Mais si tout le monde a votre outil, on ne va pas s'en sortir.
Au contraire, c'est plus simple de jouer au tennis avec quelqu'un qui sait jouer au tennis.
Ah oui.
Non.
C'est vrai, bonne réponse.
Oui, il y avait deux remarques là, qui me venaient. Une rapidement, techniquement, j'imagine que vous êtes basé sur du RAG.
Oui, exactement. Non.
D'accord. Exactement. C'est juste une parenthèse. Ouais. Après, l'autre remarque qui me vient...
C'est-à-dire que c'est des données qui sont entraînées uniquement avec...
Oui, c'est une base de données propriétaire, absolument. Données tout à fait. Oui, du retrieval augmented. Ouais. Donc, on augmente une IA standard avec ses propres données pour limiter les problèmes en tout genre et que ce soit plus crédible et plus vérifiable. L'autre question, enfin, pas question, mais remarque qui me vient, effectivement, si je reviens sur le jumeau numérique, le stade ultime, c'est avoir un jumeau numérique qui est capable d'avoir une dimension de décision stratégique. Donc, qui dit décision, dit négo. Et il va forcément, à un moment donné, y avoir de la négo entre des agents IA orchestrateurs, qui vont orchestrer plusieurs agents IA, et le human in the loop, comme on dit en bon français. Hein, toujours garder un humain qui va donner son tampon pour certains niveaux de décision. Donc là, je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à aller regarder de ce côté-là et pas mal d'interactions.
Un nouveau business pour monsieur.
Exactement.
Vous n'avez pas tellement de temps de réagir, parce qu'il nous reste 30 secondes. Mais je voulais dire un mot.
Non, mais c'est exactement ça. Et je pense que demain, on va être sur une notion de mass market. Moi, je ne peux pas me démultiplier. Donc les gens vont vouloir avoir des services comme ça, qui sont entre guillemets dépersonnalisés, mais sur lesquels ils peuvent avoir confiance. Et on aura toujours cette notion de mad by human, d'une certaine manière, sur des profils, sur des gros enjeux stratégiques, où on aura besoin d'avoir un regard qui permettra de challenger cette IA et d'apporter cette petite différence.
Non, mais pour coacher des IA aussi.
Alors, vous dites ça en plaisantant, en Corée, parce que la police s'entraide à négocier contre des IA, parce que pour les premières fois, on est des forcenés qui négociaient avec des IA contre des policiers, et les policiers étaient face à une IA.
Allez, on en reparlera un autre jour. Merci beaucoup à tous les trois. Bruno Trébuc de CGI était avec nous. Julien Pellabert pour NegoBrain et Anna Samoliotova pour Illuine Technologies. Merci beaucoup, restez avec nous, il y a une jeune pousse à découvrir.